J'ai rencontré Aldo Salvador il y a quelques semaines dans le bureau parisien du cabinet XPM Transition Partners, auquel il est associé. Conseiller au commerce extérieur de la France, il en est le responsable du monde chinois. Il a vécu 8 ans en Chine. S'étant fin connaisseur de ses rouages économiques et des implantations des entreprises françaises, qui nous livre son expertise sur le sujet. Aldo Salvador, bonjour.
Bonjour.
Que vous inspire la formidable transformation de la Chine ?
Depuis la fin des années 70, la Chine connaît en effet le développement le plus rapide de la planète, puisqu'elle sera passée d'1% du PIB mondial en 1975 à 6% aujourd'hui et probablement 12% en 2020. On assiste donc à l'incroyable métamorphose d'un pays moribond à la fin de la révolution culturelle, donc en 1976. Ce redressement spectaculaire, qui est une exception historique, force l'entendement, le respect, et nous montre que tout est rapidement possible pour un pays bien dirigé, c'est le cas de la Chine, dont les gouvernements successifs sont déterminés à sortir le pays de la misère. Quelle leçon pour l'Afrique !
Alors, vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Quel est le rôle d'un conseiller ?
D'abord, nous sommes au total 3800, dont un peu plus de la moitié réside à l'étranger. Nommés par le Premier ministre, ils apportent des conseils directs et pratiques dans leur domaine de compétences, c'est-à-dire aux PME candidates à l'exportation, voire à l'implantation dans un pays donné où se trouvent des CCE, comme on dit, aux jeunes stagiaires et VIE, vous connaissez l'expression, voire dans le cadre d'actions dites de tutorat. On supporte un stagiaire, on supporte un VIE. Et, troisième volet important, au pouvoir public, par des travaux de synthèse et de réflexion. À titre d'exemple, je vous montre là deux travaux faits ces deux dernières années par le comité Asie-Pacifique des conseillers du commerce extérieur, des gens qui ont été à l'étranger, qui sont aujourd'hui en France, et qui ont successivement fait, d'une part, ce petit guide que je vais vous remettre, Chine, à faire ou ne pas faire. Excellent guide qu'on lit rapidement. C'est vrai que c'est plus pour les gens qui vont en Chine pour les premières fois. Et j'ai particulièrement écrit, moi, la partie business et bonne manière. Donc si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas. Et deuxio, quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure, on vient de sortir, avec l'aide d'HEC Eurasia Institute qui a imprimé ça, l'internationalisation des entreprises chinoises, avec un beau titre, de l'usine du monde à la World Company. On y reviendra tout à l'heure.
Alors, vous travaillez donc avec les missions économiques, j'imagine.
Oui, bien sûr. Ils sont partis du réseau international qui aide, on le verra tout à l'heure, les entreprises PME en particulier, à se mieux débrouiller dans cette partie du monde.
Il y a de quoi faire. Que peut attendre demain l'Europe d'une croissance chinoise à 10%? C'est quand même assez inquiétant.
Oui. L'Union européenne, au contraire, les États-Unis, a tardé à comprendre les enjeux asiatiques et en particulier les enjeux de la Chine. Deux accords tardifs de coopération ont été signés entre l'Union européenne et la Chine en 1995 et 2000, donc avant-hier, qui ont progressivement normalisé les échanges qui sont aujourd'hui au deuxième rang après ceux des États-Unis. Il m'apparaît que la croissance chinoise, qui restera forte, mais ceci dira plutôt probablement entre 7 et 10%, parce qu'on veut que la croissance chinoise, et c'est dit dans la réunion actuelle de l'ANP, soit plus harmonieuse que désordonnée, et c'est tout un programme, que de rééquilibrer.
Mais est-ce que c'est possible ?
C'est sûrement possible, en ce sens que le gouvernement chinois a plus de leviers sur lesquels appuyer aujourd'hui pour calmer un petit peu la croissance, mais n'oublions pas que c'est probablement l'un des pays les plus décentralisés au monde, qui fait que le gouvernement chinois a donné depuis fort longtemps du pouvoir aux provinces, pour pas que tout remonte en haut et prenne des années pour ce qui est des décisions. Et donc, effectivement, les provinces tirent avantage aujourd'hui également du fait que la décentralisation soit forte. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe, tirera profit, ça c'est évident, de la très forte croissance de la demande intérieure, qui croît beaucoup plus rapidement que le PIB. Quand le PIB augmente de, allez, on va dire 7 points, je vais mettre dans la fourchette que je viens de vous donner, la demande intérieure en volume augmente de 12 points par an. Donc, ce qui me fait dire, je ne sais pas si on y verra tout plus tard, que la Chine, demain, sera surtout demain, peut-être dans 10 ou 15 ans, un énorme marché intérieur. Ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, puisque dans le PIB, 38 ou à peine 40% sont constitués par la consommation. Les consommations, investissements, apport de l'exportation, c'est-à-dire 20 points de moins que les pays développés. Donc elle a besoin d'une demande intérieure plus forte. Mais cela va venir, et quand ça va venir, ça va faire parler la poudre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les chiffres qu'on vient d'obtenir récemment de l'exportation ont montré que des importations chinoises ont montré que ces importations ont atteint 790 milliards de dollars. C'est quand même la bonne nouvelle, même si, c'est vrai, la Chine a un excédent commercial très très important. Depuis pas très longtemps, depuis 2 ans, voire 3 ans, mais pendant 15 ans, elle a flotté entre 10, 15, 20 milliards de plus, ce qui n'avait rien d'insultant. L'année dernière, elle était à plus 177 milliards de dollars, c'est-à-dire à peine moins que l'Allemagne, en deuxième position mondiale. Donc, je répète, l'UE a à attendre de la Chine, alors c'est le côté positif que je vous dis là, pas le côté négatif, je crois qu'il y aura des côtés négatifs plus tard, doit s'attendre à pouvoir prendre une part de ces 790 qui deviendront 900, 1000 milliards de dollars, etc. Elle ne doit pas laisser son déficit, car l'UE a un déficit vis-à-vis de la Chine, se creuser. Et au contraire, elle doit pouvoir exporter beaucoup plus dans ce pays, très demandeur demain.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail encore. Oui. Votre définition du capitalisme chinois ?
D'abord, l'entreprise privée, c'est-à-dire le capitalisme privé, est reconnu par la Constitution chinoise depuis 2003, ce qui apparaissait à peine croyable il y a 10 ans. Il a fallu attendre longtemps pour qu'on daigne reconnaître dans la Constitution que ça existait, la partie privée, pas simplement publique. D'ailleurs, étonnamment, je lisais ce matin que le congrès de l'ANP qui est en place, qui se termine, je crois bien demain, vient de reconnaître la propriété privée. C'est assez étonnant. Alors, le privé emploie 55% des actifs et une part du PNB qui croît fortement, mais ne serait encore qu'une 30aine de %. Ça veut dire que c'est quand même significatif pour un début. Mais l'État parti reste le maître du jeu, sinon le vrai patron de ce nouveau capitalisme chinois qu'on définit comme un capitalisme rouge. Actionnaire des principales entreprises, l'État garde aujourd'hui le contrôle de l'essentiel du crédit bancaire. Et c'est un sacré levier. La SASAC, State Assets and Supervision Administration Commission, est le noyau dur de ce capitalisme rouge, avec un portefeuille de 163 champions nationaux qui pèsent 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, excusez du peu. Et tout ça, c'est entre les mains du parti chinois.
Alors, comment se présente en 2007 le marché chinois à un patron français de PME, sachant tout ça ?
Alors, d'abord, 6000 PME françaises ont exporté en Chine en 2006, c'est 900 plus que l'année précédente, suite à la volonté d'Ubifrance, du président Chirac, de faire plus pour la Chine qu'on avait fait jusque-là. Cela paraît satisfaisant, et pourtant, c'est mon grand dada. Les PME françaises sont frileuses vis-à-vis de ce pays, en tout cas beaucoup plus que leurs concurrents allemands et italiens. Elles hésitent à aborder un pays réputé compliqué, donc difficile d'accès. Mais la bonne nouvelle, en termes d'exportation, c'est que pour autant que l'on trouve un importateur, un distributeur motivé, et pour le motiver, n'hésitez pas à le faire venir en France et à le pichouner, et que vous preniez les précautions d'usage pour vous faire payer, c'est-à-dire, on va dire, la lettre de crédit irrévocable et confirmée, même à 90 ou 120 jours, tout est possible, tout est réalisable dans ce pays. Donc c'est le premier niveau jouable, Il en est un second qu'il ne faut pas négliger pour les PME, c'est le sourcing, c'est-à-dire l'opportunité qui leur est donnée aujourd'hui d'acheter en Chine des composants industriels à bas coût, comme ne se gênent pas d'acheter en Chine leurs concurrents mondiaux. Et là, le risque est quasiment nul, puisque la société française acheteuse sera courtisée par une flopée de producteurs. Et le problème là, un peu difficile, mais qu'on peut surmonter, c'est d'aller chercher les plus professionnels d'entre eux pour qu'ils vous fournissent des produits de qualité. Et de plus en plus, les produits sont de qualité dans ce pays.
Alors justement, puisqu'il ne faut pas hésiter à aller en Chine, quels sont les secteurs où les Français auraient une chance de réussite?
Oui, alors je vais vous en citer quelques-uns, mais rappelons d'abord que de très nombreux secteurs sont ouverts à nos entreprises en Chine. Dès lors que nos sociétés apportent notoriété, marque, valeur ajoutée, innovation et également le côté terroir. Ah, le côté terroir français. Si je cite quelques domaines, je dirais que les équipements lourds, avions, ferroviaires et toutes les PME qui travaillent pour ces grands domaines, ces deux grands domaines-là, la chimie, l'agroalimentaire, dont vin et spiritueux, les produits de luxe sont sûrement des domaines de prédilection. J'ajouterais quasiment tout ce qui est lié aux infrastructures, j'en ai déjà un peu parlé, dont le bâtiment, parce que la Chine va devoir en très peu de temps s'équiper de moyens d'infrastructures et de façon grandiose. Donc les domaines sont très variés et à partir du moment où vous apportez the French touch, vous avez des chances de vous bien débrouiller.
Mais est-ce qu'ils préfèrent pas les Américains et les Allemands?
Les Américains, parce que les Chinois admirent les Américains, les Allemands, parce que la rigueur allemande les a aussi longuement impressionnés. Et il est vrai aujourd'hui que, alors que la Chine est le plus grand déficit français, c'est-à-dire pèse à peu près la moitié des 29 milliards de déficit de l'année dernière, 50%, excusez du peu, l'Allemagne est un petit peu négative, mais surtout l'Allemagne a cette chance d'importer à peu près comme nous, mais d'exporter trois fois plus que nous vers la Chine. En particulier, soyons clairs, la part de marché française dans les produits importés chinois est de 1,4%, celle de l'Allemagne de 5,6%. Donc, il n'y a pas photo entre ce que font les Allemands et ce que nous faisons. Donc il y a une admiration également pour les Allemands au-delà de celle qu'ils ont pour les Américains.
Alors, est-ce que notre place ne s'expliquerait pas parce que le fonctionnement politique du pays et la mainmise du PC sur tous les rouages de décision, vous le disiez tout à l'heure, c'est peut-être un frein pour nos entreprises en termes de culture?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je répondrai là par non, mais il n'y a pas
il n'y a pas d'incompatibilité entre nos cultures et ce fonctionnement politique.
Oui, alors peut-être pas. Notre culture de peuple méditerranéen fait également une place importante au lien fraternel, au lien d'amitié qu'on retrouve dans le Guangxi chinois. Quoi qu'il en soit, il n'est pas bon de cultiver nos différences culturelles, mais il faut au contraire chercher à comprendre celles de l'autre pour s'adapter le mieux possible. Somme toute, je pense que nous avons moins de difficultés à adopter les pratiques des Chinois, la patience, la tolérance, ne pas faire perdre la face, etc., que les Chinois ont de difficultés à faire du business dans le monde occidental quand ils sont souvent incapables de faire fonctionner des activités dans un milieu international interculturel. Je veux dire par là que on va le reprendre peut-être tout à l'heure, c'est que les Chinois viennent dans le monde occidental et on s'aperçoit qu'ils pataugent, ils bafouillent parce que ils veulent adapter leur non-dit et leur rapport un peu paternaliste. Ils veulent l'exporter dans nos pays et ça cafouille considérablement. Aujourd'hui, c'est le principal problème que les Chinois ont à gérer lorsqu'ils sortent de leur précaré. Enfin, le précaré qui est quand même un peu grand.
Alors donc, on revient peut-être au fonctionnement politique du pays, c'est ça? Ce côté mainmise du PC, ça c'est difficile à gérer pour nous?
Oui, alors c'est vrai que l'accueil des entreprises occidentales a été déterminant, on le sait, pour le développement de la Chine de ces 20 dernières années. Leurs investissements à ces sociétés occidentales et leur technologies modernes ont été les bienvenues dans les domaines non interdits, qui ont été affichés, donc connus, dès 1995. Donc on peut dire que les règles du jeu sont claires depuis le milieu des années 90. L'entrée à l'OMC, dès décembre 2001, a même encore plus ouvert des marchés, jusque-là fermés, tout du moins progressivement pendant le délai de 5 ans que l'OMC avait imposé. Donc on peut dire que de façon générale, et je ne vois pas que le côté français là, de façon générale, les règles du jeu étaient bien en place, étaient connues de tout le monde, et il y a quelques cas où ça a pu coincer, mais pour ce qui est du passé, je dirais que les choses étaient claires. N'empêche que, ici ou là, donc, et plus spécialement ces derniers temps, on assiste à un retour en force des conservateurs, avec un fort contenu nationaliste, pour mieux résister désormais aux étrangers. Ainsi, quelques exemples, SEB n'a toujours pas obtenu l'autorisation de racheter le numéro 1 de son domaine, sous la pression des numéros 2 et 3 chinois, qui ont dit, mais alors, on va bouffer notre industrie, etc., etc. Deuxièmement, Walmart, le numéro 1 mondial de la distribution, vient de céder aux exigences de Pékin et d'accepter la présence du syndicat officiel unique chinois dans ses magasins, après avoir longtemps lutté. Non, non, je n'en veux pas dans mes magasins. Eh bien, vous le prendrez ou vous n'entrez pas. Google, Microsoft, Skype et Yahoo collaborent délibérément, je dis bien délibérément, avec la censure chinoise sur Internet pour ne pas être écarté du phénoménal marché chinois. Donc autrement dit, il y a manifestement, après beaucoup de liberté, un retour des conservateurs pour dire « taratata, on ne peut pas lâcher tous nos pans de marché aux étrangers ». Comme c'est le pendant un peu de nos réactions à nous de l'autre côté, qui consiste à dire « bah oui, mais le pan de la chaussure s'écroule, le pan de ceci, de la papeterie va tomber l'année prochaine, etc. » Donc, faut pas s'étonner qu'en Chine, il y ait une volonté assez nouvelle de dire « halte là ».
Oui, mais sauf que ce nationalisme économique, il est bien ancré dans la culture chinoise. Par contre, nous, on dit « Ah bah c'est dommage, notre textile s'en va, mais qu'est-ce qu'on fait, nous ?»
Oui, je sais bien. C'est le problème de qui consiste en France à refuser que d'autres fassent mieux et moins cher que nous dans certains domaines, et que donc on ait cette difficulté à monter la gamme de nos productions, qui est la seule sortie par le haut, c'est-à-dire faire plus de R&D. La présidentielle aujourd'hui insiste beaucoup sur la maigreur des moyens qu'on a accordés à la R&D depuis probablement une vingtaine d'années chez nous, et qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui d'être en retard par rapport à beaucoup de pays développés, et bientôt en retard par rapport à la Chine.
Alors, qu'attend la Chine aujourd'hui justement de ses partenaires occidentaux ?
Alors, la Chine attend en effet aujourd'hui beaucoup moins des occidentaux qu'au cours des 20 dernières années. En effet, l'essentiel des transferts de technologie est réalisé. L'essentiel, il en reste. Les Chinois en sont même maintenant à développer les futurs standards. Téléphone mobile 3e et 4e génération, WAPI. Le WAPI est la sécurisation des réseaux Wi-Fi. Le VD qui va remplacer le DVD. Donc tous ces standards du futur, les Chinois disent on va pas les importer, on va pas nous les transporter, on va créer les nôtres. Et comme on va peser 1,3 million, j'exagère, mais il y a quand même, vous le savez, près de 150 millions d'internautes en Chine. Donc la Chine va quand même considérablement peser. Pourquoi ne pas développer nos propres standards que le monde finira par adopter? De plus, la Chine a l'argent nécessaire pour investir seule. Sachez que le pays investit aujourd'hui beaucoup, je dirais même beaucoup trop, 42% de PIB, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire près de 1000 milliards de dollars par an, dont seulement 7% viennent de l'étranger. L'étranger, c'est la cerise sur le gâteau, parce que l'étranger vient avec des technologies modernes, ou est venu avec des technologies modernes, mais il est faux de dire que la Chine s'écroulerait si elle n'avait pas l'investissement étranger. C'était peut-être vrai il y a 15 ans ou il y a 10 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Quand vous pensez qu'ils mettent 900, dans mon exemple, 930 milliards de dollars et que les étrangers mettent 70, je veux dire que ça, vous voyez, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'ils commencent par apporter beaucoup et les autres apportent un peu moins. Il est vrai que les besoins d'infrastructures sont énormes et doivent quasiment être couverts en une génération. Nous, aujourd'hui, notre génération actuelle profite des efforts faits par les générations précédentes pour construire autoroutes, ponts et tout ce que vous voulez. Eux, partant de quasiment zéro à la fin de la révolution culturelle, on revient dessus, ont l'impérieuse nécessité de plonger et de faire en 20 ans ce que d'autres ont fait en 40, 50 ans. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de financement, mais ils en sont capables puisqu'ils ont, vous savez, une propension à épargner donc de quasiment 50 points.
Alors, nous, on a l'habitude d'aller chez eux, on appelle ça la délocalisation. Alors, maintenant, les entreprises chinoises commencent à venir en Europe. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? C'est ce qu'on dit, mais...
Je voudrais d'abord tuer une idée fausse, qui est celle de dire que on délocalise en Chine. Tenez-vous bien, la Chine aujourd'hui consacre moins de 1% de ses investissements étrangers à la Chine, moins de 1%, c'est-à-dire moins que ce qu'elle consacre au Mexique, à la Pologne et au Congo. Cherchez l'erreur. Dans ces, allez, on va dire à peu près 500 millions d'euros, je dis moi que 95% sont des investissements offensifs, c'est-à-dire des investissements qui sont faits dans le pays pour gagner des parts de marché. Nouvelle. Et pas pour défendre des parts de marché que vous auriez gagnées à l'exportation et que d'un seul coup vous dites on va me les faire piquer, on va me les piquer, donc il est temps que je me mette sur place. 5%, allez, peut-être 10, de 500 millions, 50 millions, c'est l'épaisseur du trait. Car la vraie délocalisation dans sa définition, c'est je vais fabriquer à l'autre bout pour ramener dans mon pays d'origine. Alors vous allez me dire, ça me paraît si peu, ça, que vous m'étonnez, M. Salvador. Ben oui et non. En ce sens que, échappe au radar que je viens de définir, deux volets. Le premier, c'est que certaines grandes entreprises achètent à des producteurs chinois ou font faire à façon en Chine des articles qui reviennent en France. Ça a été à un moment donné Thomson et ses téléviseurs. Donc c'est vrai que ça n'entre pas dans leurs investissements puisque c'est un contrat de sous-traitance qu'ils ont signé. Et puis le second volet, c'est toute la distribution française qui est allée chercher en Chine en ce début d'année 2006 tous ces produits textiles en particulier là, lorsque les quotas sont tombés. Et là, c'est pas un investissement, mais c'est quand même aller chercher là-bas des choses que les Chinois auraient peut-être pas pu exporter facilement si les Carrefour, Auchan, etc. n'étaient pas allés dire, bah, vous allez me faire tel t-shirt de cette forme-là avec Carrefour ici, etc., etc. Donc, je répète que il y a une grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit en France sur la délocalisation en Chine et la réalité des choses. Ceci étant dit, La SASAC, dont on a parlé tout à l'heure, a donc regroupé 163 grandes entreprises pour les rendre plus performantes, afin, d'une part, de leur permettre de résister mieux à leurs concurrents étrangers qui viennent en Chine, parce que si elles sont performantes, il va y avoir une vraie bagarre, ils vont pas laisser le terrain aux étrangers, et d'autre part, pour leur permettre de porter le fer sur les marchés étrangers. Dans un bouquin qui est là-bas, vous voyez, Chine Objectif Monde, j'en ai coécrit deux, il est un chapitre écrit dès 2000 qui disait attention, les Chinois vont venir guerroyer sur nos marchés, alors que l'événement est un phénomène récent. La poussée des entreprises chinoises à l'étranger s'amplifie chaque année, mais c'est un phénomène, je le disais, récent, qui n'a débuté qu'en 2003. Donc hier, la progression est d'autant plus spectaculaire, 6 milliards à l'étranger en 2005, 12 en 2006, c'est encore que 20% de ce qui rentre en Chine, mais c'est un sacré début en quelques années. L'objectif des grandes manœuvres chinoises a été de cibler l'accès aux ressources minérales, pétrolières et gazières au Kazakhstan, dans beaucoup de pays d'Afrique, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Soudan, etc., etc., et en Amérique du Sud. L'Europe, car votre question c'est l'Europe, n'a pas été une priorité, car il est plus difficile pour les Chinois d'affronter chez eux la concurrence des pays développés. Donc ils continuent en allant vers d'autres marchés. L'Allemagne a longtemps devancé la France avec le rachat de nombreuses PME, en particulier du domaine de la machine-outil qui n'existe plus en France. La France a relevé la tête tout récemment, en particulier parce que le groupe Blue Star, le leader de la chimie fine en Chine, a racheté deux belles activités ex-Runpulang pour probablement un chiffre qui doit se tourner entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Retenons que les Chinois cherchent de plus en plus à racheter des circuits de distribution par lesquels les véhiculer leur propre production, et également des marques déjà connues, ce qui leur permet d'aller vite, parce que imposer une marque pour une société chinoise dans les pays développés prendrait 15 ou 20 ans. On connaît ailleurs, mais on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Par exemple, Samsung, le coréen, a mis 20 ans pour imposer une marque qui est maintenant largement connue à l'étranger.
Mais est-ce que c'est une bonne chose pour nous, cette arrivée des Chinois en France ?
Oui et non, il faut accepter que des pays viennent investir en France. Vous savez que nous, on investit bon an mal an en investissement direct, je ne parle pas en investissement de valeur mobilière, 60 milliards à l'étranger. Pourquoi accepter qu'on ferait des choses que les autres n'auraient pas le droit de faire ?
Certes. Alors, au sein du cabinet XPM, dont vous êtes le vice-président développement, vous pratiquez le management de transition. Qu'est-ce que le management de transition ?
Oui, oui, oui. Alors, je suis en fait associé au cabinet, mais c'est presque pareil. XPM, Transition Partners, comme on dit, est l'entreprise de référence pour la gestion des transitions. Son métier est de mettre à disposition des sociétés des dirigeants et des managers expérimentés pour faciliter les transitions, c'est-à-dire les changements qui, par définition, sont limités dans la durée. Nos managers interviennent rarement plus d'une année, mais sur des projets bien définis et n'ont ni passé ni futur dans l'entreprise, qu'ils rejoignent momentanément, donc ce qui leur donne une vraie liberté d'action. Et souvent, ces gens sont des cadres surexpérimentés qui permettent, d'aller vite à l'essentiel de leurs tâches. Pour nous positionner sur la Chine rapidement, sachez que nos intervenants sont des gens qui ont une double légitimité, comme on dit. Ce sont des gens qui sont des spécialistes de leur domaine, manquerait plus que ça, et qui, en plus, ont travaillé 3, 4, 5 ans en Chine, connaissent donc l'environnement chinois des affaires et peuvent aller vite à l'essentiel. Ce sont des gens qui se sont peut-être pincés une fois les doigts ou deux fois en tant que directeur général d'une société ou d'une joint venture ou d'une woofie, comme on dit, et puis qui aujourd'hui ne referont plus les petites erreurs qu'ils ont pu faire par le passé. Donc double légitimité, et vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'ils font là-bas dans ce pays ? Ils sont à la fois des accélérateurs de projets des grands groupes, qui ne disposent pas toujours au moment voulu du personnel qualifié qui connaissent le contexte local, alors que leurs ressources humaines sont normalement très considérables, mais pas toujours en bonne adéquation. Donc pendant 5-6 mois, ils ont peut-être besoin d'une personne pour lancer un projet. Et puis du côté des PME, ils concrétisent véritablement les projets, car la PME arrive souvent dans un contexte qu'elle ne connaît pas et a très rarement chez elle le cadre qu'elle peut envoyer là-bas sans se faire misère sur son territoire français. On couvre un maximum de missions qui vont d'un directeur général de société à un CFO, donc un financier, un contrôleur de gestion, à un spécialiste de la distribution, etc. On couvre beaucoup de métiers en Chine comme en France, en adaptant simplement l'expérience française du cabinet XPM à la demande précise chinoise.
Ça veut dire que vous aidez les entreprises à aller plus vite.
Oui, c'est ça. Et plus vite et mieux. plus vite et mieux. Il y a des coûts qui sont proches du coût qu'une société supporterait si elle devait envoyer un cadre là-bas avec la petite prime d'expatriation, l'appartement qui convienne bien à sa famille, quelques billets aller-retour pour la famille chaque année, etc. Et surtout les charges sociales. Donc on est dans cette enveloppe de coûts-là, ce qui est très raisonnable.
Alors, quand on connaît bien la Chine comme vous, est-ce qu'on voit le monde autrement ?
Sûrement. Alors moi, j'ai vécu 7 ans en Chine et donc j'ai un bout d'opinion. Il est clair qu'on ne peut être qu'admiratif de la volonté d'un peuple à se sortir de la misère, ce qu'on disait au début de cette réunion, et admiratif de son adaptation brutale à l'Occident. Hein, on a connu ça au Japon quand les gens ont affronté l'Occident, mais revenant à la maison le soir, se replongeaient dans leur culture. La Chine a quasiment fait la même chose et elle a appris à bousculer en une génération des dogmes établis, s'enrichir.
Ça, c'était pas gagné.
Non, c'était pas gagné. S'habiller autrement. Je me souviens que dans les toutes fin des années 70, les gens avaient tous le col Mao et la veste grise. Travailler dur quand on a été longtemps obligé de faire autant que les autres, mais pas plus. Vous savez que les Chinois, pendant les fameuses 30 années difficiles, y compris la révolution culturelle, était quasiment encadré, et celui qui sortait du couloir pour en faire un peu plus s'en prenait plein la figure. Donc les gens ont fait ce qui était le strict nécessaire et pas plus. Maintenant ils savent qu'en faisant plus, on gagne plus. C'est un thème que je crois qui est défendu dans notre campagne présidentielle. Je pourrais ajouter, élever bien un enfant plutôt que mal 4 ou 5 enfants. On est dans l'enfant unique avec les critiques qu'on a pu effectivement apporter, mais ces gens-là sont aperçus finalement que bien élever 1 voire 2 enfants demain, c'était quand même infiniment plus facile que d'en avoir une ribambelle qu'on n'était pas capable de mener dans leur apprentissage de la vie et qu'on n'était pas capable de les scolariser. Alors, face à une telle vague, on se dit que protéger nos acquis est désormais un combat perdu d'avance et quelque part ridicule. Par ailleurs, je le répète, on voudrait tellement que demain l'Afrique ressemble à la Chine. Mais c'est tout un programme.
Alors justement, l'Afrique, on en a parlé au tout début, cette implantation de la Chine en Afrique, ça présage quoi pour nous, Français ?
Écoutez, je suis inquiet parce que on s'aperçoit que la Chine qui s'est attaquée, entre guillemets, à l'Afrique depuis 2000, a un investissement cumulé aujourd'hui, dans les 20 dernières années, mais pendant 15 ans, ils n'ont rien fait, égal à celui de la France. Incroyable. Il y avait, je crois, en 2000, 50 000 Chinois en Afrique. Il y en a 500 000 aujourd'hui. Alors, il est clair que la France est inquiète parce que ils sont capables, sur le plan infrastructure, de proposer à bas coût des entreprises qui vont en effet faire des ponts, des tunnels, construire le Parlement de Côte d'Ivoire, etc., etc. Et ils sont capables également de prêter de l'argent à ces pays qui sont quand même exsangues de ce côté-là parce que ils ont tellement tendu la main aux pays développés que finalement ces pays développés finissent par ne pas voir le bout de leurs efforts et la Chine arrive au parfait moment où les uns faiblissent et elle accélère. Donc on peut être totalement inquiet. Alors l'idée serait d'être gagnant-gagnant, à savoir de tendre la main à des sociétés chinoises qui pourraient apporter des bas coûts de main-d'œuvre, etc. Je parle pour les entreprises du bâtiment comme Bouygues, Vinci, etc. Et d'apporter le management, peut-être de transition, qui leur fait défaut aujourd'hui lorsqu'ils veulent faire des choses en Afrique. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que leur difficulté de manager des sociétés dans un environnement international multiculturel.
Donc ce serait un partenariat à trois, une solution intéressante?
Oui, tout à fait, mais je pense que quelques sociétés ont commencé à s'en inquiéter et à se dire que c'était probablement une porte ou une voie à privilégier.
Alors, vu tous ces problèmes d'aujourd'hui entre la Chine et le reste du monde, est-ce que c'est une chance ou un danger, justement, ce développement?
Vous savez qu'on associe souvent les deux termes en Chine, chance et risque, ou opportunité et risque. C'est vrai. La Chine a incontestablement fait peur, et pourtant sa longue histoire montre que jamais, je dis bien jamais, le pays n'a été belliqueux. Mis à part le retour de Taïwan à la Chine continentale, je ne vois pas la Chine conquérante militairement. Certes, on parle de fusées dans l'espace, de missiles balistiques, etc. Mais ça ne devrait pas aller très loin. Il en est autrement au plan économique. Et je vais noter trois risques parmi beaucoup d'autres. Premièrement, l'interdépendance conflictuelle de la Chine et des USA et l'équilibre instable de la terreur économique et financière entre les deux pays. Je m'explique. La consommation des uns, américaine, gageant les exportations des autres, chinoises, car le déficit vis-à-vis de la Chine et des États-Unis est phénoménal, atteint presque 200 milliards de dollars. L'épargne des uns, l'épargne chinoise, finançant les dettes des autres, car la Chine détient, je ne sais pas si vous le savez, pour 400 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Autrement dit, si les États-Unis arrivent à couvrir leur déficit structurel, c'est grâce au Japon, c'est clair, mais également à la Chine.
Ça veut dire qu'ils sont liés?
Oui. Ils sont liés en effet, ce qui fait que le directeur du Trésor américain pousse beaucoup pour que le yuan réévalue, vous savez. C'est un sujet très important, mais ne critique pas trop la Chine, parce que la Chine va lui dire, d'abord dans mes 1000 milliards de réserves, on y reviendra tout de suite après, je vais pas placer beaucoup de bons américains demain, etc. Alors ça, c'était le premier volet. Le deuxième, c'est que dans sa course au leadership face aux États-Unis dans le monde, ça on a compris, au Japon et à l'Inde en Asie, la Chine n'a qu'un seul désavantage décisif, c'est le déni de liberté publique, qui donc va peser d'un poids très lourd dans l'avenir du pays. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10-15 années qui viennent? Ben, je suis pas sûr, je suis à demi rassuré, à demi apeuré, parce que je suis de ceux qui pensent que la poigne du parti unique aujourd'hui est nécessaire à la stabilité sociale. Mais que donc la démocratie viendra, mais si elle venait trop rapidement aujourd'hui, je pense que ce serait négatif pour la Chine. Donc effectivement, cette liberté politique questionne beaucoup d'experts dans le monde, mais je crois que ça tiendra encore pendant probablement une bonne dizaine d'années. Enfin, le troisième risque que je voyais sur le plan économique, et de citer une information toute récente, celle qui verrait la Chine créer un fonds de 200 à 300 milliards de dollars, le plus important du monde, à partir de ces 1100 milliards de réserves, pour investir, avec prudence certes, dans des sociétés étrangères, afin de bénéficier de retours un peu plus élevés que ceux des bons du Trésor américain. Cela laisse rêveur.
Alors, finalement, depuis tout à l'heure, et avec ce que vous venez de dire, on pourrait en conclure que la Chine, dans 10 ans, sera les maîtres du monde, seront à la place des États-Unis.
Écoutez, c'est vrai, le bouquin dans lequel je faisais allusion tout à l'heure dit que en 2020, la Chine aura rejoint les États-Unis en PIB. En fait, c'est pas tout à fait ça. Elle les aura presque rejoints en PIB courant, en PIB en dollars courants, et les aura dépassés en parité de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous connaissez cette définition